VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 31 mai 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, une série d'enlèvements a été signalée dans l'Est depuis vendredi.
Enlèvement aussi au Cameroun où Human Rights Watch demande la libération d'une proviseure de lycée kidnappée en région anglophone.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a achevé hier sa visite de deux jours au Mali.
L'Union européenne a dénoncé hier les arrestations d'opposants et de personnalités de la société civile en Égypte.
À New York, poursuite des entretiens entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le haut responsable nord-coréen Kim Jong-chol sur le prochain sommet Donald Trump-Kim Jong-un.
Le président syrien Bachar el-Assad a affirmé qu'une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis a été évitée de justesse en Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, une vingtaine de civils ont été enlevés depuis vendredi dans l'Est où opèrent de multiples groupes armés. Mais il n'y a eu aucune revendication pour le moment. Des détails avec Abdourahman Dia.
Selon Jason Tawiha, responsable administratif du territoire du Rutshuru, les enlèvements ont eu lieu à 75 km au nord de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Les kidnappings ont eu lieu dans différentes localités, a-t-il indiqué. Jason Tawiha a précisé que les ravisseurs demandent des rançons et que les familles commencent à s'organiser pour libérer les leurs. Nous mettons en place des stratégies pour empêcher ces malfaiteurs d'accomplir leur sale besogne, a-t-il ajouté. Le président de la nouvelle société civile du Rutshuru, Jonas Pandasi, appelle ce jeudi à une journée sans travail avec marche pacifique contre les enlèvements. Plusieurs groupes armés prétendant défendre des communautés congolaises sont actifs dans le Rutshuru comme dans le reste du Nord Kivu. Les observateurs prêtent aussi à ces groupes armés des intentions sur le contrôle des minerais abondants dans le Nord Kivu, notamment le coltan.
Human Rights Watch demande la libération immédiate d'une proviseure de lycée enlevée le 25 mai dans une région anglophone du Cameroun. Pour l'Organisation de défense des droits de l'homme, les conflits ne doivent pas être un frein à l'éducation. Le point avec Marie Benson.
Human Rights Watch réclame la libération immédiate de Georgiana Enanga Sanga. La proviseure d'un lycée près de Bouéa, en région anglophone, a été enlevée la semaine dernière par des séparatistes. L'organisation déclare que les attaques dans des écoles ne doivent pas être utilisées dans un conflit ou une lutte politique. Depuis 2017, les séparatistes ont incendié de nombreux établissements scolaires et ont kidnappé plusieurs fonctionnaires. Ils réclament un État anglophone indépendant. Malgré les combats quasi quotidiens dans le nord-ouest et le sud-ouest, les examens de fin d'année ont commencé cette semaine au Cameroun.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a achevé hier, je cite, « le cœur réchauffé », une visite de deux jours au Mali, où il a célébré mardi avec la MINUSMA la journée internationale des casques bleus. M. Guterres a plaidé à cette occasion pour un soutien accru à la force conjointe mise sur pied par les pays du G5 Sahel pour lutter contre les djihadistes. Le secrétaire général a par ailleurs déclaré lors d'une conférence de presse à Bamako, après un déplacement dans le centre du pays, qu'il faut que le Mali connaisse des élections libres. Il a ajouté que l'ONU fera de son mieux pour aider au bon déroulement des élections prévues le 29 juillet. Nous reviendrons sur la visite du secrétaire général de l'ONU à l'intérieur du Mali dans la seconde partie de cette édition.
Le président malgache Rajao Nariman Pianine a déposé hier une requête auprès de la cour de la haute cour constitutionnelle de son pays. Il souhaite obtenir des éclaircissements sur la récente décision lui intimant l'ordre de former un gouvernement de coalition. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Il y a trop d'interprétations dans la décision de la Haute Cour constitutionnelle qui peuvent nourrir une autre crise selon l'avocate de la présidence, Tantely Rakotonerina, d'où cette demande de clarification du président pour une explication de test. Eri Rajomanapiam entend éviter toute confusion sur la récente décision, lui demandant de nommer un gouvernement de coalition. Il souhaite avoir des précisions sur les pouvoirs du président et les délais d'exécution de cette décision. La plus haute instance judiciaire du pays a créé la surprise la semaine dernière en ordonnant la nomination d'un nouveau premier ministre pour tenter de sortir de la crise. Dans son arrêt, elle écrit que le nouveau gouvernement devra refléter les résultats des législatives de 2013. Cette injonction a suscité une nouvelle polémique entre le régime et ses adversaires qui revendiquent tous les deux la majorité au Parlement. La Haute Cour a en outre créé la confusion en imposant un délai de 7 jours qui arrive à échéance demain vendredi et dans le même temps laisser 10 jours aux deux camps pour trouver un accord pour une sortie de crise.
La Ligue marocaine de défense des droits de l'homme a dressé hier un tableau sombre de la situation des droits de l'homme pour l'année 2017 au Maroc. Le point avec Bagassi Koura.
Dans son rapport annuel présenté à Rabat, l'ONG affirme que 17 000 manifestations ont été observées l'an passé dans le pays, dénonçant l'approche sécuritaire adoptée à plusieurs reprises par les autorités. Le Maroc a été agité par les mouvements de protestation dans la région du Rif d'octobre 2016 à mi-2017, à Djerida dès fin 2017 et à Zagora l'été dernier. La Ligue marocaine de défense des droits de l'homme accuse les autorités d'avoir réprimé les protestataires et appelle à la démission du ministre de l'Intérieur. L'ONG fondée en 1972 demande aussi la libération des 450 personnes arrêtées dans la région du Rif et à l'ouverture d'un dialogue sérieux avec le mouvement Hirak. Le ministre chargé des droits de l'homme, Mustapha Ramid, avait reconnu une nette amélioration en reconnaissant toutefois quelques dépassements. Le gouvernement a présenté fin 2017 un plan d'action de quelques 400 mesures et une série d'objectifs à atteindre d'ici à 2021 pour améliorer la situation.
L'Union européenne a dénoncé hier les arrestations d'opposants et de personnalités de la société civile en Égypte à la suite de la réélection du président Abdel Fattah al-Sissi. La porte-parole de la chef de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini, a qualifié d'évolution inquiétante le nombre croissant d'arrestations ces dernières semaines de défenseurs des droits de l'homme, de militants politiques et de blogueurs en Égypte. Au Caire, le ministère des Affaires étrangères a rejeté totalement les critiques de l'UE qui, je cite, « ne reflète pas la réalité égyptienne ».
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo retrouve ce jeudi le général Kim Yong-chol, le bras droit de Kim Jong-un, pour de nouveaux entretiens à New York en vue de remettre définitivement sur les rails le sommet historique entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump. La rencontre d'aujourd'hui va concerner les questions de fond sur la préparation du sommet. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Après un bon dîner mercredi soir, Mike Pompeo et le général Kim remettent le couvert aujourd'hui pour de nouveaux entretiens. Le secrétaire d'État tiendra ensuite une conférence de presse. Le général Kim Yong-chol est le plus haut responsable nord-coréen à fouler le sol américain depuis 18 ans. L'objectif de leur discussion est de déterminer si les États-Unis et la Corée du Nord sont en mesure de fixer un ordre du jour partagé pour le sommet du 12 juin à Singapour. Mike Pompeo et Kim Yong-chol tentent a priori, selon les analystes, de concilier des attentes inconciliables. Washington réclame une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, et n'entend pas lâcher du lest sur les sanctions internationales qu'une fois que le processus par nature complexe et long sera achevé, ou au moins très avancé. Pyongyang a de son côté accepté de parler d'une dénucléarisation, mais refuse qu'elle soit unilatérale et sa définition risque d'être éloignée de celle des Américains, tant les Nord-Coréens ont jusqu'ici présenté leur arsenal atomique comme une garantie pour la survie du régime. Outre les discussions à très haut niveau de New York, des délégations des deux pays se rencontrent à Panmunjom, dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, pour mettre au point l'ordre du jour du sommet et aussi à Singapour pour coordonner cette fois la logistique. Parallèlement, les échanges entre les gouvernements américains, sud-coréens et japonais se sont encore intensifiés. Le premier ministre japonais Shinzo Abe rencontrera Mike Pompeo à Washington le 6 juin avant d'être reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche le lendemain.
Le président Donald Trump, qui a répété qu'il aurait souhaité nommer quelqu'un d'autre à la place de Jeff Sessions à la tête du ministère de la Justice. Mais selon un avocat de M. Trump, M. Sessions ne risque pas d'être limogé pour le moment. Le président Trump en veut à ce dernier pour s'être récusé dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Cette situation, estime-t-il, le laisse sans protection face au procureur spécial Robert Mueller, chargé de déterminer s'il y a eu ou non collusion entre la campagne électorale de Donald Trump et les Russes.
Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé qu'une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis avait été évitée de justesse en Syrie, pays ravagé par la guerre dans laquelle sont impliquées les deux grandes puissances. Nous étions près d'une confrontation directe entre les forces russes et celles des États-Unis et heureusement elle a été évitée, a dit Monsieur Assad, qui s'exprimait en anglais dans une interview diffusée jeudi par la chaîne de télévision Russia Today.
La Belgique a rendu hier un hommage ému aux deux policières et à l'étudiant tué la veille à Liège par un délinquant radicalisé. Son acte a été revendiqué par le groupe État islamique dans un communiqué publié vendredi par AMAC, son agence de propagande. Le parquet fédéral belge avait auparavant confirmé que la piste terroriste était privilégiée, indiquant qu'il soupçonnait par ailleurs l'auteur, abattu mardi par les forces de l'ordre, d'avoir déjà tué un homme lors de la nuit précédant la tuerie.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Bombardier annonce une forte hausse des commandes des avions d'occasion en Afrique. Au cours des trois derniers mois, l'avionneur canadien a réussi à placer un nombre important d'avions régionaux d'occasion auprès de plus de 7 compagnies aériennes de la région. Cette montée en puissance de Bombardier résulte de son expertise à répondre aux besoins des transporteurs africains. Avec leur coût global le plus bas et leur norme de fiabilité la plus élevée, les avions SRJ Series et Q Series sont des investissements à faible risque pour les compagnies aériennes qui veulent accroître leur rentabilité. Le FMI va décaisser 23,5 millions de dollars pour la Mauritanie. Ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre d'une facilité élargie de crédit de plus de 164 millions de dollars pour améliorer la situation économique du pays. La Mauritanie a enregistré une hausse de ses réserves de change à 847 millions de dollars à la fin de l'année dernière, une stabilisation de sa dette extérieure à l'échelle de 72% du produit intérieur brut et une croissance économique de 3,5%. Une reprise des activités dans les secteurs des mines et de la pêche a permis de réduire le déficit des transactions courantes du pays. En Afrique du Sud, 9 entreprises chinoises vont investir 10 milliards de dollars dans la zone économique spéciale de Moussina-Makado dans la province de Limpopo. Cet investissement servira dans 4 projets, une centrale électrique, une coquerie, une usine de fabrication d'alliage et une autre de fabrication d'acier.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cannes des moins de 17 ans, tolérance zéro pour la fraude sur l'âge.
À l'approche des éliminatoires de la Cannes des moins de 17 ans, la Confédération africaine de football a prévenu toutes les nations engagées. L'instance fera preuve de tolérance zéro en matière de fraude sur l'âge et tous les joueurs sélectionnés feront l'objet d'un test de vérification avant la compétition. En cas de fraude, les sanctions seront lourdes d'après le communiqué de la CAF.
Marché des transferts, le Real a recruté le Brésilien Rodrigo.
Rodrigo Rodriguez, qui évoluait au Grêmio, va rejoindre la Castilla, l'équipe de jeunes du Real, la saison prochaine. Il a signé un contrat de 6 ans avec le multiple vainqueur de la Ligue des Champions. C'est un rêve qui devient réalité, porter le maillot du plus grand club du monde, a confié Rodrigo dans un message posté sur Instagram. Il a débuté pour le Grêmio à l'âge de 16 ans, puis a été prêté à Palmeiras cette saison.
Lewandowski, lui, veut quitter le Bayern, selon son agent.
L'agent du buteur polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a assuré que son poulain souhaitait quitter le club allemand cet été, en quête de changement et de défis. Pour le moment, l'international polonais est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2021.
Golden State, toujours privé d'Hugo Dalla pour la finale NBA.
Le champion en titre et grand favori pour le doublé a annoncé qu'il sera privé d'André Iguodala pour le coup d'envoi de la finale 2018 contre Cleveland ce soir. Iguodala s'est blessé à la jambe droite lors d'un choc avec la star de Houston, James Harden, durant le match numéro 3 de la finale de conférence Ouest le 20 mai. L'ailier qui évolue à Golden State depuis 2013 a manqué les 4 derniers matchs de son équipe. Âgé de 34 ans, Iguodala avait été élu meilleur joueur de la finale de 2015, remporté par Golden State et a retrouvé cette saison, sa place dans le 5 majeur des Warriors.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Organisation mondiale de la santé dit travailler avec les autorités congolaises afin d'introduire rapidement 5 premiers traitements pour soigner les malades d'Ebola en République démocratique du Congo. L'épidémie s'est déclarée le 8 mai dernier à Bikoro, à la frontière avec le Congo-Brazzaville, et s'est propagée à Mandaka, où une campagne de vaccination a commencé la semaine dernière. Le dernier bilan fait état de 54 cas, dont 25 décès. Nathalie Barge a joint le docteur Pierre Fromanti, responsable Ebola de l'OMS à Mandaka, dans la province de l'Équateur.
On a compté jusqu'à 4 cas confirmés. Les derniers cas donc confirmés étaient décédés la semaine dernière. Depuis, on n'a pas détecté d'autres cas sur Mbandaka. Par contre, la semaine dernière, on a détecté des nouveaux cas dans les zones de santé de Iboko, et notamment dans un village qui s'appelle Itipo, et dans la zone de santé de Bikoro. Entre tous les partenaires, on a des équipes réparties donc dans ces 4 villes que sont Bikoro, Ifoko Impengé, Itipo et Iboko.
Combien de personnes ont déjà été vaccinées?
La vaccination a démarré le 21 mai. C'est une vaccination en ceinture qui vaccine les contacts, les contacts des contacts. On est proche d'une population cible qui était environ à 490.
Vous avez prévu de vacciner environ combien de personnes et combien de temps cela prendrait-il?
On vaccine surtout autour des derniers cas confirmés dans tous les villages dont on vient de parler. Là, maintenant, la vaccination sur Mbandaka touche à sa fin. On continue à vacciner des agents de santé dans des centres de santé, des hôpitaux, des cliniques. La vaccination a débuté depuis le 28 à Bikoro, Itipo et aussi dans un autre village qui s'appelle Bononzo. Donc, on a beaucoup avancé là depuis le début de la semaine. On déploie de plus en plus de logistique et de personnes sur le terrain. Encore 10 vaccinateurs sont partis aujourd'hui, des équipes d'Mbandaka pour renforcer les équipes à Itipo.
Alors le vaccin est expérimental, toutefois s'il s'avérait vraiment efficace, est-ce que nous irions vers une vaccination systématique des populations exposées au risque d'Ebola en RDC et dans d'autres régions du continent selon vous?
L'efficacité du vaccin a déjà été démontrée au niveau de la Guinée. Là, on continue avec ce lot de vaccins. On est bien dans une vaccination en anneau, c'est-à-dire pour vacciner autour de là où le virus circule, et donc pas de vaccination de masse. C'est-à-dire, par exemple, on peut imaginer que, par contre, les agents de santé en République démocratique du Congo devraient aussi se protéger, puisqu'ils sont plus à risque que d'autres pays, par exemple. Et c'est quelque chose avec lequel on discute, notamment avec le ministère de la Santé. C'est quelque chose qu'il faut peut-être envisager au niveau national, c'est-à-dire vacciner les agents de santé de première ligne qui, comme vous le dites, sont plus exposés que les autres à être en contact avec des cas d'Ebola.
Est-ce que vous avez commencé à utiliser certains des 5 traitements non homologués que vous avez proposés à la RDC?
On n'a pas encore commencé. C'est prévu cette semaine. On attend les dernières autorisations. Les antiviraux sont en cours d'acheminement au niveau de Kinshasa. Puis ils viendront à Mbandaka et seront offerts à titre concentrationnel aux patients atteints de la maladie à virus Ebola.
C'était le docteur Pierre Fromanti, responsable Ebola de l'OMS à Mbandaka dans la province de l'Équateur.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
République démocratique du Congo toujours, l'insécurité croissante inquiète beaucoup les habitants de Lubumbashi suite aux attaques et agressions à domicile. Une situation qui semble échapper aux autorités, nous dit Narval Mabila, correspondant de VOA Afrique à Lubumbashi.
Ici, les Luchois vivent dans un climat de peur, vols, viols et assassinats sont signalés à chaque fois que les hommes armés en cagoule visitent une maison, et c'est là dans les 7 communes de la ville. Monsieur Albert Kabouya, qui habite le quartier Golf Plateau, a bravé la peur pour décrire la situation à VO Afrique.
La situation sécuritaire ces derniers temps à Lubumbashi va de mal en pire. Elle est vraiment très catastrophique, pour bien dire. Puisque on ne sait pas comprendre, il y a des coups de balles presque dans chaque commune et chaque nuit. Il y a certains coins là où les gens ont commencé même à déménager, tel que le golfe côté Juge. Là, il y a des maisons vides. Les gens préfèrent rentrer à la Kenya, au Kamalondo, là où ils étaient locataires, avant qu'ils soient là chez eux. Il y a un temps, on nous a présenté un groupe de gens qu'on a arrêté, soi-disant que c'est eux qui sont à la base de l'insécurité. Mais après une ou deux semaines, on voit que la situation ne change pas. C'est comme si cette situation est entretenue quelque part. Pour moi, le premier qu'on peut pointer comme étant responsable de cette situation sont les agents qui sont censés faire la sécurité. Moi, je vois que les autorités civiles provinciales sont incapables. Ils ne savent pas quoi faire. Mais la responsabilité incombe beaucoup plus aux autorités militaires et policiers.
C'est avec la peur qu'un Luchois s'exprime sur la situation. Mais pour la société civile du Haut-Katanga, un plaidoyer fait auprès des autorités locales et nationales sur l'insécurité et la situation salariale des policiers et militaires qui sont pointés du doigt. Maître Ghislain Calois, président de la société civile du Haut-Katanga.
Nous avons constaté qu'il y a une recrudescence de l'insécurité caractérisée par des visites de bandits à main armée, accompagnées avec des tueries, viols, ainsi de suite. Et c'est une question que nous avons eue à échanger avec les autorités locales. Les gens vivent dans une peur dont vous n'avez pas idée. Et aussi, nous avons saisi les instances du gouvernement national, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Nous avons fait un plaidoyer par rapport à la situation de policiers et des hommes en uniforme que leur situation d'une manière générale n'est pas bonne. Il y a insuffisance à ce qui concerne le salaire, non seulement cela.
Les autorités politiques et militaires semblent être embarrassées par la question de l'insécurité dans la ville de Lubumbashi, mais VO Afrique a tendu les micros au député provincial Jean Mandwe, qui lui dénonce l'insécurité et dénonce l'agression de la communauté katangaise par la communauté kassaïenne.
Ce sont maintenant des attaques très sélectives. Ce sont les originaires du Haut-Katanga qui sont en train d'être attaqués. Ce sont les gens qui sont venus du Kassai qui nous attaquent, policiers, les FARDC. Franchement, nous sommes en insécurité et la situation est très mauvaise.
À qui profite l'insécurité qui pourrait engendrer les éternelles velléités katangais kassaïens? Narval Mabila, Lubumbashi, VO Afrique.
Cette semaine, dans Washington Forum, retour sur la grève des étudiants qui a récemment agité les campus sénégalais. Suite aux protestations et les affrontements avec les forces de l'ordre, le président Macky Sall a annoncé une augmentation des bourses et une baisse du prix des repas dans les universités publiques. Ces mesures suffiront-elles à calmer les étudiants? L'État sénégalais a-t-il les moyens de soutenir financièrement tous les étudiants? Quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants au Sénégal? On en discute ce jeudi à 19h30. Temps universel sur VOA Afrique.
Au Mali, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est rendu hier à Mopti dans le cadre de la visite de 48 heures qu'il a entamée mardi à Bamako. Il a eu à cette occasion une série de rencontres avec les organisations de la société civile, les leaders communautaires et la force conjointe du G5 Sahel. Compte rendu de notre correspondant sur place, Mamoudou Bokoum.
Cette visite de quelques heures a été l'occasion pour Antonio Guterres de faire une série de rencontres à Mopti. Tout d'abord, le secrétaire général des Nations Unies a eu un tête-à-tête avec l'état-major du G5 Sahel. Il a été question de l'opérationnalisation de la force des 5 pays du Sahel, une force qui attend beaucoup des Nations Unies. Didier Dako est le chef d'état-major général du G5 Sahel.
Ce que nous attendons de l'ONU, c'est un peu ce que nous attendons de toute la communauté internationale, un appui dans toutes les dimensions, que ce soit sur le plan opérationnel, que ce soit sur le plan logistique, et pour aider la force à se construire davantage au plus vite et faire face ensuite aux missions qui sont les leurs.
Cette mission de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière est appréciée par le plus haut fonctionnaire international. C'est pourquoi Antonio Guterres s'est engagé à mettre tout son poids pour appuyer le G5 Sahel afin qu'il réussisse sa mission.
Nous ferons un plaidoyer très fort face à la communauté internationale pour que le G5 puisse disposer des ressources financières et matérielles nécessaires à son efficacité. Et nous demandons aussi à la communauté internationale un grand investissement pour le développement de la région, le développement du Sahel, parce qu'il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix.
Le numéro 1 des Nations Unies a aussi rencontré les leaders communautaires et les organisations de la société civile. Avec ces deux couches, il a été question de la situation que vit la région de Mopti. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le nord-est du Nigeria est le théâtre de nombreuses attaques du groupe Boko Haram. Après l'enlèvement de 200 écolières à Chibok, le gouvernement nigérian et des organisations d'aide humanitaire internationale ont lancé l'initiative École Sûre, la Safe Schools Initiative. À Maïdougouri, les écoles organisent des exercices de sécurité d'urgence pour les élèves. Malgré ces mesures, de nombreux enfants risquent toujours leur vie pour obtenir l'éducation dont ils ont besoin. Chika Odoua a été à Maïdougouri pour ce reportage que reprend ici Arzuma Compaoré.
Pour ces élèves du secondaire, c'est une journée normale en classe de chimie. Mais quand le sifflet retentit, tout change. C'est un exercice de sécurité. Les élèves pratiquent quoi faire en cas de danger. Les exercices ont commencé cette année seulement. Mohamed Tidjani, âgé de 17 ans, leur sert de guide en simulant le son d'une explosion d'une bombe.
Quand les assaillants arrivent, nous sommes censés pratiquer ces actions pour nous protéger.
Tidjani fait référence à Boko Haram, le groupe terroriste qui a émergé à Maïdougouri et déclaré la guerre au gouvernement nigérian il y a 9 ans. Ils n'ont pas encore attaqué cette école et l'administration espère que cela ne va pas changer. Le gouvernement nigérian et les agences donatrices ont mis en place l'initiative pour la sécurité dans les écoles en 2014 après l'infâme enlèvement des écolières de Chibok. Le programme aide à payer pour la formation en sécurité scolaire des éducatrices comme la directrice Kolo Zada. Mais elle doit encore collecter des fonds pour payer les vigiles.
Je suis celle qui finance avec le peu que nous pouvons collecter.
Cette école, la plus ancienne de Maïdougouri, a été attaquée au moins 3 fois. À l'entrée, pas de garde postée. Ce journaliste entre sur le campus sans aucun contrôle. Boko Haram a tué le directeur et un autre éducateur dans cette salle il y a quelques années. Aujourd'hui, la seule protection contre une autre attaque, ce sont ces deux bénévoles âgés qui gardent la porte arrière. Et dans cette école primaire à proximité, malgré les nouvelles mesures de sécurité, au moins 5 enseignants ont déjà quitté par peur.
Boko Haram est toujours une menace pour les écoles à Maïdougouri, une menace pour les enseignants et même pour la communauté. En dehors des enseignants, les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école à cause de la situation actuelle. On ne peut pas deviner si telle ou telle personne est de Boko Haram.
L'UNICEF a affecté 9 millions de dollars à l'initiative pour la sécurité dans les écoles afin d'améliorer la sécurité dans les salles de classe. Les enseignants de l'école primaire de Galtimari disent que les murs de leur école doivent être renforcés. Alors que la police nigériane a été envoyée dans certains endroits proches des écoles, les éducateurs et les étudiants s'inquiètent de leur sécurité. Quant aux élèves, ils espèrent aller à l'école sans crainte. En attendant, ils comptent sur ces exercices pour les garder en sécurité.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.